Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dont il y a très peu d'occurrence qui s'appelle Vos podcasts. Alors je vous rappelle ce dont il s'agit. Comme vous le savez, depuis 13 saisons maintenant qu'on propose des podcasts à la cellule, on reçoit également des podcasts faits par vous-même, chers auditeurs, chères auditrices qui se disent « bon bah tiens, et si nous aussi on faisait des podcasts ?» Alors certains d'entre vous, comme Jérôme S par exemple avec les releases dans la cave ou Antoine Foin avec la Citadelle, vont jusqu'à créer leur propre site, mais ce n'est pas le cas de tous les MJ qui nous envoient des émissions. Alors aujourd'hui, pour vos podcasts, l'émission que j'ai envie de vous proposer est une émission de Julien Falconet. Alors Julien Falconet, vous le connaissez déjà, si vous avez écouté les campagnes sur Sens notamment, car il était l'un des joueurs de la campagne de Sens qui a été débriefée dans les micros de la cellule. Donc j'ai eu l'occasion avec Julien de m'entretenir très souvent sur la qualité des podcasts de la cellule, sur la cellule et compagnie, et il faut savoir que Julien, c'est quelqu'un qui est très attaché au fait de raconter la fiction, notamment dans les one-shots. Et bon, comme vous le savez, moi j'ai tendance à penser que c'est quand même souvent raconter une partie de jeu de rôle, c'est souvent assez peu intéressant. Mais Julien a découvert une astuce très 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 intéressante et à mon avis remarquable pour permettre en fait de raconter la fiction sans que ce soit chiant. Et justement, c'est ce qu'il fait avec ses propres tables de sens. Après avoir joué la campagne de sens, il faut savoir que Julien s'est passionné pour le jeu et qu'aujourd'hui il a près de 6 tables de sens, si mon souvenir est bon. Ça se trouve, il en a encore plus à l'heure où je vous parle. Mais voilà, il faut savoir que Julien, c'est un gros, gros fan de sens. Il s'y connaît. Enfin, voilà, je pense qu'il est meilleur. Il est comme Antoine Foin ou Jérôme S ou tous les MJ comme Morgan et Maxime et compagnie. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont plus experts de sens que moi-même. Donc, Julien, vraiment, s'il y a bien quelqu'un à qui je fais confiance pour maîtriser cette campagne, éventuellement patcher les quelques scénarios qui seront dysfonctionnels, etc., c'est bien Julien. Et là, en l'occurrence, il a trouvé une solution, je trouve, remarquable pour faire en sorte que c'est joueurs puissent partager leur fiction. Alors, Julien avait trouvé très intéressant, et d'ailleurs Amir, Audrey et Antoine également, le fait que des podcasts soient diffusés sur leur propre campagne. Ça leur permettait, avant la partie, de réécouter, ils avaient l'habitude de réécouter en fait le podcast qu'on avait enregistré ensemble pour se remettre dans le bain et repartir en fait dans le scénario, dans l'épreuve suivante, avec la connaissance de ce qui s'était déroulé avant, grâce au podcast qu'ils avaient enregistré sur la cellule. Et donc il s'est dit, tiens, pour mes tables de sens, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais prendre un petit zoom et je vais enregistrer le débriefing que les joueurs font après les parties. Et en fait, il a organisé ça sous la forme d'un rapport, c'est-à-dire que le commandant de la team, de la team de bug qui affronte les épreuves de sens, va être amené à faire son rapport à Gladius et donc à raconter ce qui s'est passé pendant la partie, en compagnie évidemment des autres membres de la team. Et ce qui donne en fait une succession. Alors là, ce qu'a fait Julien, c'est qu'il m'a proposé un enregistrement d'une succession de débriefings comme ça de toute la campagne de Sens Renaissance en fait. C'est-à-dire qu'il a enregistré une seule et même table, tous les débriefings d'une seule et même table de chaque épreuve. Et il les a coupés et il les a mis bout à bout. Ce qui va vous donner en fait un aperçu par des débriefings extrêmement rapides de la fiction de chaque partie de Sens, de toute la campagne de Sens Renaissance. Alors, souvent on s'est demandé comment présenter Sens Renaissance et l'intérêt de Sens Renaissance à travers des émissions. À la cellule, on s'est souvent posé la question, mais comment partager notre passion de sens à travers des émissions? Et bien là, je trouve que Julien a trouvé une manière tout à fait remarquable de nous faire partager en fait le contenu de Sens Renaissance en nous racontant une fiction, mais sans que ce soit chiant. Parce que comme c'est un débrief, ils mettent un petit peu de leur subjectivité aussi. Ils racontent évidemment les faits, et rien que les faits de ce qui s'est passé, mais on a aussi les commentaires des joueurs derrière, enfin des personnages ou des joueurs, d'ailleurs on sait pas très bien, et ça c'est remarquable aussi, pour sens ça a du sens, vous le savez, et donc on a aussi des petites réflexions et tout ça, et j'ai trouvé vraiment le format très intéressant. Alors j'ai regretté de temps en temps qu'il y ait certains trucs qui soient coupés, parce que Julien évidemment a coupé énormément de choses pour vous proposer une émission assez courte qui résume toute la campagne de Sens Renaissance. Donc en soi déjà c'est une épreuve d'avoir réussi à faire cela, c'est un tour de force incroyable de la part de Julien, mais j'ai regretté quand même qu'il y ait certaines choses qui soient coupées. Il y avait certaines réactions de joueurs que j'attendais, et là, hop, c'était coupé. Il y a des moments aussi, notamment dans le débrief de Icil, vous verrez, où c'est tellement coupé que je pense que c'est un peu difficile parfois de comprendre les événements. Après, je me suis posé la question de savoir si Julien n'avait pas fait ça pour éviter de trop spoiler la campagne. Voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un podcast tout à fait remarquable, un format remarquable. J'avais jamais entendu un format comme ça. J'ai trouvé ça assez intéressant à écouter, vraiment très passionnant, notamment dans les réactions, encore une fois, que les autres joueurs avaient. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous le partager et j'espère que ça vous inspirera parce que je pense que vraiment, c'est quelque chose à faire, même sur d'autres campagnes. Là, évidemment, il s'agit d'une campagne sur Sens, donc c'est normal aussi que la cellule le diffuse parce que ça fait longtemps en plus qu'on vous avait pas diffusé de podcast sur Sens, donc c'est important de temps en temps de continuer à le faire. Mais même sur d'autres campagnes, je pense que c'est une expérience qui peut être très intéressante, y compris pour des MJ qui voudraient découvrir le contenu d'une campagne, d'avoir un podcast comme ça de 40 minutes qui débriefe épisode après épisode la campagne. Enfin bref, en tout cas, j'ai trouvé que c'était remarquable. Donc je vous le partage aujourd'hui. Voilà, désolé pour cette longue introduction, mais vraiment, je pense que sans cette introduction, ça aurait été difficile de comprendre l'intérêt de l'émission que vous allez écouter. Vous n'auriez pas compris ce que vous étiez en train d'entendre. Donc voilà, j'ai préféré vous faire cette petite introduction. Voilà, allez, je vous laisse avec votre podcast. Merci beaucoup à Julien et à tous ces joueurs et joueuses d'avoir participé à cette expérience. C'était vraiment super intéressant. Si Julien a d'autres podcasts de cette nature, moi je suis vraiment favorable à les diffuser et tout ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc merci à vous tous et toutes pour ces podcasts. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis bah, je vous laisse justement avec le podcast de Julien. Je vous laisse découvrir ça. C'est vraiment. C'est ouf. À très vite.
Enfin, soyons francs. Ça a raconté notre enfance, de la mort de nos parents, en passant par la construction de la cité du pôle sud, les différentes étapes de notre vie qui nous ont un peu construit, qui ont un peu construit le groupe qu'on était et les personnes qu'on a. Certaines mises en situation, même un peu pour tester si on est fidèles les uns aux autres ou en tout cas tenter de nous manipuler.
On voit qu'il y a des affaires.
On a tous choisi plus ou moins des voies et des directions différentes. Et là, justement, comme tu le disais juste avant, on en est arrivé à la grande révélation qui était qu'une partie de notre combat contre l'Empire se passerait aussi dans l'univers virtuel
réel. L'ombre monde.
L'ombre monde.
Ok. Quelqu'un veut compléter ? Kevin ?
On a aussi pu se familiariser avec tout l'univers. Tout l'univers de la rébellion, de voir un peu les différentes strates politiques, mais aussi sociales, avec les ouvriers, les militaires, etc., et les différentes interactions qui étaient liées à ça. Et on a pu aussi un peu voir à quoi ressemblait l'univers général, avec justement un empire très fort, dictatorial, et des gens qui aient de survivre à ça, par tous les...
Alors déjà, on a commencé par une session, on va dire, de test de nos resplioïdes.
Attention au bruit sur la table. Ça...
On a fait du coup notre session de test de resplioïde où on a combattu une sorte de robot char militaire qui fut un moment assez stressant, mais on s'en est bien sorti en combinant nos forces avec plus ou moins de succès en nous. Donc après avoir réussi à battre ce robot, on nous a affecté à notre première mission qui était de patrouiller dans la ville vers les docks.
Après avoir le commandant de l'équipe.
Capitaine.
Général.
On a vu des ombres sur les toits qu'on a suivies et on a vu que c'était deux petites filles. Donc la petite Sally qui est très fan d'Altus et la petite Emily qui a voulu se suicider suite à la lecture d'un poème pour le moins étrange. On l'a raccompagnée du coup chez ses parents, on a essayé d'en savoir plus. Ça nous a amené à l'hôpital où on a appris qu'il y avait une recrudescence de suicides. Et grâce à Sarah, non pas Sarah Connor, on a pu rejoindre le bibliothécaire aveugle qui nous a parlé d'un poète un peu particulier dont on ne connaît pas trop d'informations. On connaît son nom, mais on ne sait pas vraiment si c'est un pseudonyme ou pas. On sait juste qu'il écrit des poèmes assez morbides et avec des informations assez étranges. On s'est arrêté là.
Dont la lecture orale n'a pas été
visible. Mais ouais, mais par contre, la lecture des gens, visuelle.
Et visuellement, de par sa manière d'écrire, aurait un impact.
Wilfried Gabriel encore.
Capitaine Altus, rapport.
Alors, donc, nous avons repris l'aventure chez le libraire, le bibliothécaire. qui nous a donné quelques informations sur le suspect, donc à savoir qu'il avait eu un accident de moto et qu'il avait des problèmes d'ascenseur dans sa tour. Grâce à ces deux indices, on a pu mener l'enquête pour trouver notamment, trouver les garages avoisinants et réduire le champ de recherche à deux tours parmi les. Et parallèlement, on a aussi trouvé qu'il avait été censuré dans plusieurs magazines. Après s'être rendu dans dans multiples garages, l'un d'eux nous a décrit le suspect ainsi qu'une plaque qui nous a fait remonter à un nom Midriaquafos. Et
donc, Nowhere à l'envers.
Nowhere, qui habitait à
Nowhere.
Erewhon. Et donc on s'est rendu à la tour la plus proche. Enfin, après avoir fait notre rapport à Serena, on s'est rendu au 60e étage de la tour la plus proche du garage pour finir par découvrir donc le suspect chez lui au milieu d'une salle très étrange et malaisante avec des papiers partout, des questions un peu comme l'antre d'un homme fou. Et donc il était albino, s'est caché le visage des clients et couru vers la fenêtre pour sauter et disparaître malgré notre incursion dans l'ombre mûre pour le retrouver.
Alors un peu j'ai oublié que j'en joue tout de suite. C'est toi qui as ouvert la porte, Guetta, t'as senti ton armure de Philonite qui réagissait en sa présence.
Ah, d'accord.
Et il n'y a pas que la pièce qui était malaisante, hein. Même lui, à le regarder, il y avait un truc dérangeant.
Bah on ne sait pas.
Il a dit que la Philonite ne réagit qu'au bug aussi.
Ah oui, effectivement. Ah.
C'est ce que vous avez dit en tout cas.
Ah.
Détail intéressant.
À votre connaissance.
Mais qui correspond aux archives.
On est d'accord que la réaction à un bug et un immortel n'est pas tout à fait la même.
Non, c'est la même.
C'est la même.
Non, parce que nous, notre théorie, c'est que c'était un immortel, mais maintenant...
Ça sent l'immortel à plein nez. Donc ensuite...
On ne sait pas combien il y a d'immortels, ça ne nous a jamais été.
Ça ne peut pas être un bug. Visiblement, le Grand Conseil, il a déjà eu affaire à lui avant la guerre.
Ah, puis il est un peu vieux pour être un bug.
On ne sait pas si on est les premiers.
Enfin, si, pas de notre génération.
On ne sait pas si on est les premiers bugs. Et il peut être et un bug et un immortel. Bon, là, on parle.
Bon, bref, donc après l'avoir non rattrapé par la fenêtre, on a rappelé le central, il y a une deuxième escouade qui est venue et on a été rapatrié à la base pour nous faire un débrief et
de chaleureuses félicitations.
Nous féliciter et nous apprendre pas grand chose. Donc Altus a été convié pour une mission de réouverture d'avant-poste qui s'est bien passée, mais sur le retour on a croisé des ennemis. J'ai donné l'ordre de rester discret pour les observer et un soldat a désobéi et j'ai un petit peu cassé les bras. Et c'était la bonne décision à prendre, hein. On voulait rester discret mais bon tant pis pour ses bras. Et donc depuis que je suis rentré il y a une rumeur qui est démarrée et les soldats me craignent. Raison que j'ai...
Alors moi c'est un peu plus sympa quand même. Elle a pas cassé. Donc, pour Alama, elle s'est beaucoup questionnée sur tout ce qui concerne les immortels et compagnie, vu que ça fait partie un peu des théories qu'on a concernant notamment les VGA. Du coup, elle a fait pas mal de, enfin le peu d'infos qu'il y a sur ce qui touche à la mortalité, les immortels tout. Et ça l'a pas mal questionnée, perturbée. À la suite de ça, elle est quand même pas mal sortie avec les bugs. Ses amis et aussi les autres bugs. Elle a aussi eu une discussion avec Soren un peu sur toutes ses interrogations quand il est passé à la base. Et déjà voir ses amis, ça lui a un peu remis du baume au cœur. Et aussi voir la petite Emily et ses parents. Et depuis, d'ailleurs, elle s'est dit qu'elle allait un peu s'occuper des nouvelles générations pour pas qu'ils sombrent un peu dans le désespoir comme ce qu'elle a pu voir. Et elle donne de musique à des enfants. Et elle soutient pas mal Gabi, qu'elle voit pas très bien en ce moment. Disparition.
Alors, Gabi. Il se retrouve énormément hanté par ses cauchemars, notamment à cause de Wilfried. Du coup, il trouvait un peu du réconfort dans l'amitié qu'il propose Michel en allant dans des bars obscurs. Merci Michou. Pour aller faire des jeux d'argent et boire de l'alcool. Évidemment, ça va un peu Gabi, parce qu'il ira mieux. Et du coup, il va se remettre un petit peu dans des missions, notamment dans des campagnes marquées participer, la propagande, mais aussi être vraiment présent sur les différents événements que fait les bugs, notamment au café.
Propagande pour
la révolution.
Pour la révolution et pour la réputation des bugs.
Et il va également beaucoup assister Maria. Et donc,
ok. Et donc, au milieu de ces entrefaits, l'équipe est convoquée par Gladius Sword, qui les envoie en mission au pôle Nord. Guetta, qui est à ce moment-là en train de visiter Sydney, embarquera au bord d'un d'un Sub-Zeri qui viendra à la rencontre du Sub-Zeri dans lequel se trouve le reste de son équipe, le Deathcrawler du Capitaine Liz. Et arrivé sur place, il recevra un briefing de Altus, du Capitaine Altus, qui lui expliquera le contenu de la mission. Capitaine Altus, votre brief.
Donc nous avons été briefés par Gladius pour aller enquêter au pôle Nord suite à des disparitions. Donc ça, c'est notre briefing officiel, comprendre pourquoi ces disparitions ont eu lieu. Et à côté de ça, un briefing un peu plus officieux qui est essayer de tester un peu la loyauté du dirigeant du pôle Nord qui s'appelle Viggo Nemeo, parce qu'on a des doutes quant à sa loyauté.
Il y a... Ok, c'est ce que tu diras, tu vas rappeler l'équipe de John.
Et en fait, il y a une première équipe qui a été envoyée pour enquêter il y a quelque temps et qui a été menée par John Galway, et dont on est sans nouvelles depuis un mois.
Ok.
Oui, moi j'avais oublié John.
Très bien. Et donc voilà, ben on reprendra la fois prochaine. Est-ce que vous voulez faire un tour sur sur l'état d'esprit de vos personnages par rapport à cette mission, Gabi?
Qui est par rapport à la première équipe, John, mentor de Gabi.
Inquiet de retrouver John, très bien.
Pas le retrouver surtout.
Alama plutôt déterminée, notamment qu'on sait déjà la puce à l'oreille de WGA, ben dans la hâte d'en savoir plus.
Ok. Altus.
Bah, Altus est très, très fier qu'on lui confie une nouvelle mission qui a l'air de plus grande envergure et qui est quand même encore une occasion de s'illustrer auprès de Gladius.
On a été envoyé au pôle Nord officiellement pour enquêter sur des disparitions de scientifiques. En même temps, nous avons été chargés de surveiller le responsable civil de la base. Car suspecte une forme de trahison, car il n'aurait pas obtenu les budgets qu'il voulait pour continuer ses recherches. Dans le déroulé exact, Vita les a rejoints dans leur
Sub-Zeride,
dans leur sous-marin. Et donc là, la mission est lancée. Arrivé sur place, on a été reçu par Nemeo, qui a l'air vraiment un peu sur sa planète, très aristocrate. Il nous a reçus, on a bien mangé. Après, il nous a posé des questions sur... il tentait de savoir notre allégeance et en même temps nous faire dire... Il sous-entendait que les bugs avaient été inutiles, qu'on n'avait été qu'une perte de temps. Ou en tout cas qu'il fallait agir, fallait pas attendre. Là-dessus, on a commencé notre enquête un peu en lui posant des questions où il a dit qu'il ne lui connaissait à peine ceux qui avaient disparu. En tout cas, il ne travaillait pas avec eux. Le lendemain matin, on a rencontré le commandant militaire qui, lui, nous a donné plus de détails sur les disparus. Après deux enquêtes...
Il nous attendait impatiemment
et il soupçonnait fortement le... donc après, on a suivi les pistes qu'il nous a données. Et on s'est très vite rendu compte que au moins deux des personnes travaillaient directement avec Viggo sur un projet très secret. Et voilà, et quand on se décide à aller soit espionner, soit confronter Viggo, au moment de traverser les passerelles, une arme plutôt inconnue qui a l'air d'agir sur la gravité s'est mise en marche, au point c'est tellement puissant que ça a arraché les passerelles et on a commencé à couler. Et la seule manière qu'on a eu de s'en sortir, c'est de passer dans l'ombre monde. Et grâce à un geste héroïque de Gabi, on est remonté très vite en haut. Et là,
Geste héroïque, c'est l'utilisation d'un ombre pouvoir.
L'utilisation de l'ombre pouvoir puissant. Très balèze. Là, on en est au moment où il faudra qu'on décide ce qu'on fait. Même si je pense que la bonne technique, c'est de tous passer dans l'ombre monde et de lui péter la gueule. Dans la vraie terre et de lui péter la gueule. Je vous laisse conclure.
Ok. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
T'es bien dans la merde. Ouais.
Non, mais on n'a aucune trace des disparus, on n'a aucune piste pour la première équipe.
Des gens sont morts dans le sous-marin.
On a failli crever, des gens sont morts dans le sous-marin, on ne sait pas à qui était ce sous-marin-là. Et également, vu le sous B, vous
avez... Le Deathcrawler.
Bien galéré à monter, c'est pas vraiment... On est dans la merde, c'est...
Alors... Du coup, on a commencé quand on est sorti de la crevasse où on avait été en épisode. On est rentré à l'intérieur des laboratoires. On était encore dans l'ombre monde et on a vu qu'il y avait une sorte de maillage sur le sol un peu étrange. Et on a remarqué que ça nous renvoyait des décharges, de décharges au visage. On a décidé de repasser dans monde lumière ou monde kebab, selon que de l'appeler. On a fouillé pour trouver les... pour retourner dans le bureau de Néméo.
Ce que les scientifiques appellent le monde.
Monde réel, ouais, le monde réel. En allant vers les appartements de Néméo, on a trouvé des scientifiques la tête littéralement dans le plafond. Ça nous a pas rassurés. Puis, en fouillant dans les appartements de Néméo, on a trouvé un escalier qui nous a conduit à une salle où fantôme scientifique. Et enfin, ça nous a donné accès à une sorte de tour de garde où on a retrouvé, rappelle, c'est Romuald Crow, le mort depuis plusieurs semaines. Deuxième coup, qui nous avait bien, celui-ci décédé. Et on a entendu aussi une voix inconnue. Ah oui, on a trouvé dans sur le corps de Romuald un testament qui nous a permis de voir qu'il y avait une sorte de grotte souterraine, si on pas l'existence, et on a décidé d'y aller. Malheureusement, sur le chemin, on s'est fait attaquer par un quadrilla. Il nous a assez malmené, on peut le dire. Donc après plusieurs moments, que ce soit dans l'ombre monde ou le monde réel, on a réussi tant bien à atteindre ce sous-sol, trouver un laboratoire secret. Alors qui a priori n'existait que dans le monde réel, parce qu'on entrait vers un éboule dans l'ombre monde, mais on ne sait pas si la cavité. Dans ce laboratoire secret, on a vu du coup toutes les personnes disparues qui étaient alitées, et a priori sédaté. Et on a également vu Néméo qui était avec le quadrilla nommé Serum, qui semblait du coup travailler pour Néméo. Après un combat plus que complexe, où on a... Ouais, épique. Épique, mais bon, où certains ont failli risquer leur... voilà, c'est ça. Nous avons réussi à tuer le quadrilla, qui s'est évaporé, enfin qui est poussière... Et Néméo, qui s'est avéré être une extrêmement lâche, un peu pleuré au pied en pliant de ne pas le... Bon, ça a failli arriver, mais on a réussi à contenir Gita. Il nous a donné quelques informations, comme le fait que le quadrilla qui travaillait pour... était un indépendant qu'il avait rencontré à la Nouvelle-York et qui lui avait donné de l'argent pour faire ses recherches. Recherches pour lesquelles, en fait, il comptait fabriquer. Parce qu'a priori, mais il n'a pas souhaité nous donner beaucoup plus d'informations, vu qu'il a demandé à conseil pour son procès, il n'a pas voulu. Malgré des tentatives assez musclées de le faire parler, ça n'a pas abouti. Du coup, on l'a attaché, on a prévenu Gladius, les malades, injecté le... Et personnage... Voilà, pour tout le monde, et particulièrement pour moi.
Très bien.
Et j'ai vu Alama a vu un personnage... étrange à la toute fin, fond de la grotte, c'est volatilisé. Je t'attendrai à la nuit.
Alors, on est retourné au pôle sud après avoir un peu travaillé au pôle nord. Arrivé au pôle sud, bon, il y a eu plusieurs événements qui seront résumés tout à l'heure au Slack, mais grosso modo, il y a eu le procès, l'interrogatoire du type qu'on avait arrêté au pôle nord. Il y a eu un bug d'émis de ses fonctions et un bug qui a été enterré. Donc, il y a eu des moments un peu tristes et c'est un peu compliqué. On a été missionné pour aller à la Nouvelle-York, puisque a priori il y a un message qui a été entendu. On a reçu un appel de détresse de la Nouvelle-York et donc on a envoyé voir ce qui se passe. Entre autres, on doit enquêter sur un vortex qui est présent et qui est présent aussi dans l'ombre monde et sur un quadrilla qui est présent et qui s'appelle Graveur et qui aurait été à l'origine du virus. Voilà, donc on a fait le voyage, ça s'est globalement bien passé, à part quelques tensions dans l'équipe. Arrivé sur place, la ville est bien dévastée, surtout à cause du vortex et des arcs électriques qu'il produit. On a vu qu'il y avait une présence de l'Omicron, puisqu'on a détruit 5 drones, plutôt de manière efficace. On est accompagné par William.
Wilfried.
Ça, j'étais pas loin, un prince. Pas. Donc Wilfried, le poète de notre toute première mission, qui a décidé de nous aider parce qu'il a l'air de bien aimer. On est tombé sur une tribu qui sont les Alkites.
Alkites.
Donc clairement, ils sont dans le besoin, ils manquent de nourriture et de médicaments. Dans l'eau, on a réussi à faire plutôt ami-ami avec eux, même s'ils sont encore sur leur garde. Mais ils veulent bien qu'on les évacue. Dans l'eau, il y a une fille qui s'appelle Jennifer, qui serait a priori un bug, puisque la fille Onite a réagi.
Oui.
Oui, mortelle, mais comme elle a notre âge.
Jeune mortelle.
Ouais. Enfin bon. En tout cas, la Filonite a réagi avec elle. Et elle a l'air d'être plutôt maligne, puisque c'est elle qui a réussi à l'envoyer le message. Donc voilà, on n'a eu aucune perte avec nos hommes, tout va bien. Et là, on a appris qu'il y a environ 3000 personnes. 5000 personnes qui seraient là et que les tribus sont en guerre les unes avec les autres. Donc ça sera peut-être pas facile de tous les évacuer. Il faut qu'on définisse si on appelle le QG pour demander tout ce qu'il nous faudrait pour pouvoir les évacuer. Mais je pense. Et là, on se dirigerait vers le Vortex pour essayer d'enquêter sur le Vortex et de rencontrer.
Oui, nous avons donc rencontré les Elkit après avoir échangé un peu et découvert la nouvelle bug. Nous avons décidé de partir en mission au centre de l'île pour chercher Graveur. Donc, on a pas mal marché dans les tunnels, rencontré des tas de sculptures et gravures abominables. Pour enfin, à mesure qu'on se rapprochait, voir de plus en plus de choses surnaturelles, de type hallucinations, illusions, fantômes et autres. Notamment deux enfants Kadria qui déchiraient un cadavre humain, c'est sympa. Et donc, ensuite, on a donc fini par monter en haut de l'immeuble et rencontrer notre ami Graveur, qui n'était pas très coopératif, qui donc était globalement fou et voulait fusionner les deux mondes en utilisant, en sacrifiant des infectés pour faire fusionner les deux mondes, pour régner sur les deux mondes. Parce qu'a priori, ils sont super balèzes chez eux, donc là, ils seraient super balèzes partout. Et s'en est suivi une séance de blessures mortelles. Et voilà, il nous a lâché quelques informations sur notamment le fait qu'on serait à l'origine des Kadria. Et ensuite, voilà. Ah oui, à un moment, on a quand même contacté la base pour demander plus de transport pour pouvoir rapatrier. Et voilà, petite scène de ménage sur la fin pour s'expliquer. Expliquer les mensonges de certains et certaines. Et voilà pour la fiction. Si vous avez d'autres trucs à rajouter, je sais
pas. Personnellement, alors, j'ai pas menti, j'ai juste omis des choses.
Alors, du coup, il se trouve qu'en fait, on a quitté la Nouvelle-York après qu'on nous ait fait part de la présence d'un ovni qui aurait apparemment dévié sa propre trajectoire, donc ça prouve que l'OVNI peut être piloté, et qu'il aurait atterri dans la mer au niveau de l'Afrique. Donc, on a très rapidement lancé des tests pour savoir si c'était quelque chose d'artificiel ou pas. On a capté qu'il y avait un message dans cet OVNI, un message qu'on a très facilement réussi à décrypter grâce à Altus et à Gabi, bien évidemment, qui signifiait « Alette Soren Solipsis, vous êtes notre dernier espoir ». Donc, on a décidé tout simplement d'aller voir ce qu'il en était, évidemment en le faisant d'abord écouter à Soren Solipsis pour avoir un avis sur la chose. Du coup, nous sommes partis au niveau de l'Afrique. On est arrivé au niveau des pyramides. Et on a. Vous me dites si j'oublie quelque chose, hein, vraiment. Désolée, c'est pas très clair. Oui. On est tombé aussi sur au niveau des pyramides sur l'Omicron qui visiblement cherchait aussi cet ovni-là. Bon, on n'a pas attaqué ni rien, on a juste dévié et nous sommes donc tombés sur cet ovni qui est en fait une capsule contenant des fragiles, donc qui sont visiblement des petites perles de nacre qui en vérité n'étaient pas des perles de nacre mais des paires d'œil qui sont rentrées en contact avec nous car ils recherchaient Soren Solipsis pour les aider et communiquaient avec nous en écrivant dans le sable. Donc c'était apparemment des anciens humains, ils ont totalement perdu la mémoire, la seule chose qu'ils savent c'est qu'ils devaient retrouver Soren et donc on a appelé Soren qui est venu immédiatement pour voir ces fragiles. Et visiblement, il semble les avoir reconnus. Donc, ni une ni deux, on s'est un petit peu retrouvés tous dans le vaisseau de Soren. Et on est parti à Aqua City, qui est visiblement l'Atlantide, hein, concrètement, avec des gens totalement érudits, avec des plantes, tout. Et on a atterri là, on nous a dit, bon, prenez une semaine de repos, bisous, et Soren est parti.
Alors du coup, on a passé une semaine à Aqua City où on a un peu chacun fait nos affaires. On a vu que c'était une ville qui était très paisible, harmonieuse, qui était surtout centrée autour de la recherche. On a quand même vu, en fouillant un petit peu, qu'il y avait quelques petites dissonances par-ci par-là, quelques personnes notamment qui sont un peu sceptiques par rapport à certaines expériences de Soren, notamment par rapport à Azilis, qui est une immortelle suspendue au dôme et qui n'a aucun sens et sur lequel il fait des expériences. Et on a appris du coup que certaines personnes trouvaient que c'était un peu étrange ou sordide. Mais c'est une minorité de manière globale, la ville est très paisible. Avant de retrouver Soren, on a juste eu une expérience un petit peu étrange dans un couloir d'un balayeur qui agissait d'une manière un peu bizarre et en nous indiquant quelqu'un qui s'entraînait tout seul en pleine nuit et qu'on n'a pas réussi à attraper. Surtout qu'après, on nous a dit qu'il n'y avait pas de balayeur ici, donc c'était un peu étrange. Après, du coup, on a fait notre journée avec Soren, où la majorité du groupe était assez sur la défensive. En tout cas, c'était une ambiance un peu tendue, parce qu'on avait beaucoup de questions. On était un peu tous en proie aux doutes à différents degrés. Certains étaient très énervés aussi. La discussion avec Soren nous a surtout... déjà permis de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais eu connaissance d'Aqua City, vu qu'il nous a expliqué que c'était une stratégie de la résistance de tenir les bases secrètes, etc. On a aussi appris un peu la vie de Soren, en tout cas ce qu'il a bien voulu nous en dire. Donc on connaît un petit peu mieux sa trajectoire de vie et ses histoires personnelles. Il nous a aussi partagé certaines hypothèses qu'il avait par rapport à sa condition d'immortel et à celle des autres immortels. D'ailleurs, on a découvert l'existence de d'autres immortels encore, et notamment le fait qu'ils pouvaient être reliés à des runes. On en a aussi un peu plus appris sur les recherches qu'il avait fait avec Mipho sur le fonctionnement de Cosmo et Rebirth, et sur la Filonite. Enfin, on a un peu appris des choses de fond, mais on a aussi appris qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient encore secrètes, soit parce que Soren n'a pas les réponses, soit parce qu'il y en a certaines qu'il veut pas nous dire, pour plein de raisons. Et sur la fin, il s'est occupé de nos armures.
Alors, donc on a tout à commencer par une réunion au bar pour discuter un peu des faits passés. Après une moult discussion alcoolisée, on a décidé d'abandonner l'idée du cambriolage pour se rabattre sur la visite à Azilis. Et donc là, tout le monde, sauf moi, est allé en volant ou attrapé par quelqu'un qui vole jusqu'au sommet d'Aqua City. Après quoi, un événement assez troublant et incompréhensible est arrivé, qui a fait que Gita a vu des choses après avoir touché Azilis, une vision de dans une université, quelque chose de similaire à Azilis et un homme, le balayeur dont j'ai oublié le nom.
Classis.
Ah.
Nédémon Sérénade Classis.
Ah alors, oui, d'accord.
C'est le nom de famille aussi.
voilà, donc suite à quoi on a décidé d'aller essayer justement de retrouver Nédémon dans la forêt, là où il chante. Et donc on s'est mis, nous, à faire de la musique avec lui pour l'amadouer et communiquer avec lui, sans plus de succès que ça, je dirais. Et donc voilà, ensuite, le jour suivant, arrivée de tous les membres du conseil, dont le membre de Sydney, qui est un showman sans conteste, donc début de l'assemblée qui est interrompu par un débarquement massif de Kadria qui se sont mis à taper tout le monde, et donc on a combattu vaillamment, mais malgré tous nos efforts, Gladius est mort, tué par un Kadria, et Alama s'est retrouvée presque morte, mais projetée dans l'ombre monde, et comme l'a dit l'EMJ, survivant sans sa respiroïde dans l'ombre monde. Voilà.
Alors du coup, on a démarré la partie juste après la mort de Gladius, quand Alama revient dans le kebab monde, et qu'elle vient de découvrir qu'elle avait des facultés un peu bizarres. où elle est très en état de choc et elle va beaucoup s'isoler du groupe. Après ça, donc il y a eu pas mal de moments, un peu de nos personnages en solo. Donc d'un côté, Alama qui bat beaucoup et qui se fait parfois un peu pister par Gita qui essaye un peu de savoir ce qui se passe. De l'autre côté, donc Altus, Gabi et Gita qui vont traîner un peu ensemble, faire le débrief à la fois de la mort de Gladius, tout ce qui s'est passé, des révélations, enfin des semi-révélations de Soren avant les grosses révélations, et de l'état d'Alama. Alama va un moment réussir à voir Soren et avoir une discussion avec lui, enfin avec elle du coup finalement, sur sa resplioïde qu'elle pense cassée. Et en discutant avec elle, elle va comprendre qu'elle est vraiment devenue une quadria, qui l'a fait un peu sombrer dans un état psychologique un peu bancal, dirions-nous. Et elle se confie pas trop à ses potes qui, pendant ce temps, font un peu leur vie. Gabi qui va retrouver John, Altus qui va faire de la boxe avec, finalement, Phil. Après tout ça, il y a un moment d'un peu de drama semi-clash de la team Novaster qui essaye d'avoir des explications avec Alama, mais elle est très distante, elle est à la fois très dans un mal-être, à pleurer et, un peu, et en même temps un peu froide avec eux, ce qui ne plaît pas du tout à Gita qui d'ailleurs qui se casse pendant l'explication, où elle ne donne pas des vraies réponses non plus, elle fait un peu sa Soren justement à dire « je suis plus trop comme avant », mais sans vraiment donner d'explication. Et ils n'ont pas trop le temps d'en débrief après coup, parce que bon, déjà Gita refuse de parler à Alama, et le lendemain il y a du coup l'enterrement de Gladius, où Altus et Gabi ont fait un discours, et où Gabi a un petit peu envoyé du sel sur Altus pendant le discours, c'est un peu. Et après ça, truc moins drôle, mais plutôt révélation choquante de Soren qui nous a révélé d'un coup être une meuf, avoir été l'amante de Finn Longfinger et l'être toujours parce qu'il est encore en vie et être la mère de Wilfried. Donc c'était un peu beaucoup pour tout le monde, je pense. Tout le monde était un peu en état de choc. Ça a provoqué de grands émois et chez les Bugs et chez les membres du conseil qui étaient réunis. Où on sent que du coup les suspicions qui planaient depuis le début sont en train d'exploser entre tous les membres du conseil. On a du coup découvert que Phil Longfinger était en vie et qu'il prenait la tête de la résistance. Ça a l'air d'être un personnage de poigne, dirions-nous. Donc les avis sont mitigés, on va dire, enfin très différents, très variés. Quant à cette annonce, il y a des gens qui s'en sont très heureux, comme Maria, qui allait ravie, d'autres qui ont flippé un petit peu. On a eu aussi un peu des confirmations dans ce que Soren nous avait déjà dit, que les immortels étaient tous liés à une rune de Dieu. Confirmation du coup que Soren était lié à la rune de vie, parce que c'était une de nos théories, et que Finn Longfinger était lié à la rune de mort, et d'autres hypothèses, voilà. Et après tout ça, oh oui, on a été conviés on nous a ordonné d'avoir une réunion le lendemain avec un entraînement spécial, parce qu'on va faire partie de la garde rapprochée de Finn Longfinger. On donne pas vraiment le choix de ce que l'on a compris. Et à la suite de tout ça, tout le monde est un peu en état de choc. Alama se casse parce qu'elle apprend en 24 heures qu'elle est une quadria et que sa crush sort avec un immortel mort qui en fait est pas mort. Du coup, c'est un peu too much. Du coup, elle se casse, elle va dans le monde parce que fuck off. Et les autres bugs ont un peu tous des réactions différentes, mais ils décident d'aller boire des coups parce que ça commence à devenir l'habitude de la Team Novaster avec Michel et Maria, et on voit qu'il y a des réactions un peu différentes. Certains comme Gabi sont un peu choqués et savent pas trop quoi penser de la révélation concernant Finn Longfinger, qui est quand même un personnage bon déjà qu'on connaît pas, qu'on n'a pas côtoyé, mais le peu qu'il a laissé paraître, c'est un peu inquiétant. Enfin, il a pas l'air très sympa. Mais Maria, elle est à fond, elle est ultra heureuse et déjà que de base, on sentait qu'elle aimait pas trop Soren, mais alors là, c'est un pire que tout. Du coup, ben voilà, full drama et pas mal de révélations quand même intéressantes. Voilà. Et ça s'est fini. Ça se finit sur le fait que Alama va tenter, enfin après son petit moment dans l'ombre monde, à essayer de redescendre en pression plus ou moins facilement. Elle va essayer d'aller voir Gita pour enfin s'expliquer avec elle. Voilà.
On était juste après le conseil où on a appris le retour de Finn Longfinger. Alias, j'ai oublié son autre nom.
Céline Grey-Costa.
Céline Grey-Costa, voilà.
Donc le matin, on a été convoqué par lui. Avant, on a fait une petite mise au point. Alors d'abord Gita et Alama en solo et après avec le reste de l'équipe, où Alama a avoué au reste de l'équipe qui se doutait quand même déjà fortement de quelque chose, qu'elle était devenue une quadrilla. L'équipe l'a plutôt bien pris de manière générale. Ensuite, on a été convoqué par Finlandfinger. Donc, on a été convoqué par Finlandfinger. On y est allé. Ça a tout de suite sel. Ça a fait tout de suite des étincelles. Gita a essayé de se barrer, mais Altus l'a retenu. Et ça lui coûtera quelque chose à un moment. Donc ils ont commencé à se foutre sur la gueule avec Finlandfinger. Il a fallu qu'ils nous donnent l'ordre d'arrêter parce que ça commençait à partir un peu en vrille. Mais clairement, il est à un autre niveau au-dessus de nous. Bon, on lui a quand même bien foutu dans la gueule. Juste après, dans la foulée, on a été embarqué pour sauver...
Clairement, vous êtes un groupe extrêmement efficace. Hein. Vous lui avez fait au moins 10 ou 12 BM. C'est très très conséquent.
On colle une branlée à tous les autres groupes, c'est ça ?
Côté militaire, je crois que vous êtes effectivement ceux qui avaient été le plus loin.
Boum ! Yes.
Donc ensuite, il y avait la ville de Jadidis qui a été attaquée. Nous devons l'aider pour limiter son siège. Arrivé sur place, il y avait des espèces de bunkers qui étaient lancés du ciel par l'Empire Micron. Mais grâce à une stratégie très maligne, en passant par l'Ombre Monde, nous sommes rentrés dans un des bunkers, nous avons pris le contrôle, nous avons défoncé ceux de tour, et ainsi de suite. Il y a eu un moment un peu étonnant où Finlandfinger a fait des trucs. Là, j'ai rien compris, donc si quelqu'un peut reprendre ce petit moment avec les vaisseaux.
On l'a vu regarder les vaisseaux et dire, alors la phrase c'était « je t'accepte » et les vaisseaux ensuite se sont mis à vriller, se sont exposés tout seuls au sol.
Et c'était des vaisseaux de l'Omnicron, on est d'accord ?
Oui, ouais.
Okay. Là-dessus, après, dans la ville, Altus a une promotion, ou deux ou trois même, veut dire. nous, on a éteint, les trois autres ont éteint un incendie dans un hôpital de la ville. Nous sommes arrivés juste à temps pour défendre la ville. Là-dessus, l'attaque pour finir de libérer la Terre, donc des deux grosses dernières plates force qui étaient place force. Forte de l'Omnicron qui était Berlin et Paris était planifiée. Alors bon, il y avait l'attaque de toutes les grosses places fortes, mais c'était vraiment le lieu central. Et nous, on était sur l'attaque de Berlin. Arrivé là, on s'est rendu qu'il y avait un truc un peu bizarre. Les gens étaient tous rentrés, barricadés. Il y avait eu l'air d'avoir des attaques à l'intérieur de la ville. En explorant, on est tombé sur un groupe de plusieurs quadrillas qui nous attendaient. Alors, si on les fait dans l'ordre, il y avait Kranisten, Sauveuse, Meta-Anima, Explosius, Rédemption, Biopsie, Voir et Météor. Finlandfinger s'est jeté sur Kranisten en disant « c'est le mien ». Nous, notre mission était quand même de nous en prendre aux quadrillas. Notre priorité c'était les quadrillas. Sauveuse a très rapidement trahi et s'en est pris à Météor. On a un peu déchiqueté les autres, on a pris des dégâts mais on avait quand même un peu sous le coup. Soyons honnêtes. Biopsie utilisait des espèces de gaz pour montrer où on était. Explosius c'est un gros balèze qui s'est fait défoncer hyper rapidement. Voilà. Météor a fini par être tué par Sauveuse de manière. Elle a tout balancé. Sauveuse était en PLS et après elle a commencé à nous attaquer très mollement parce qu'elle nous disait qu'elle ne pouvait pas. Elle devait mourir pour ce qu'elle a fait et que de toute façon elle était sous le contrôle de Miphos et qu'à un moment ou un autre il la retrouverait. Et donc moi-même en essayant de l'assommer, je me suis fait avoir boum, choc ontologie. C'était fini. Là-dessus, Finlandfinger a défoncé Kranisten. A priori, c'est quand même un peu défoncé. Il y a eu un petit monologue de Kranisten qui nous a expliqué que en fait depuis le début ils étaient de notre côté et qu'ils étaient juste là pour nous aider à s'entraîner contre les quadrillas de Cosmo et parce que eux-mêmes étaient des quadrillas de Rebirth et qu'en fait ils étaient incapables de tuer, ce qui est cohérent avec l'attaque la cité explique même le choc qu'ils ont eu quand ils ont tué l'ancien général. Ouais, Gladius. Là-dessus, il nous a expliqué qu'a priori, Miphos avait des trucs vachement plus dangereux, mais je vais vous le dire, mais je suis mort. Là-dessus, les nuages qui recouvraient la Terre ont commencé à tout disparaître, et donc la Terre a commencé à reprendre a priori un aspect un peu plus comme il aurait dû être. Et donc la Terre est libre de l'Empire et de l'Omnicron. mais les plus grands dangers ont l'air de se profiler à l'horizon.